Il est bien simpliste de croire que l'armée la plus puissante du Sahel que la France tente depuis le lâche assassinat du grand Déby en été 2021, à qui, rappelons-le, revient le mérite de faire imploser le G5 Sahel, de réduire en miettes, un peu à l'exemple de l'armée ivoirienne post-Gbagbo, et ce, dans le strict objectif de la mieux mercenariser, ce à quoi s'était opposé Déby père, n'a pas les yeux rivés sur les frontières de l'Ouest, car, alors même que pas un jour ne passe sans que la presse atlantisse, ne fustige hypocritement le bain de sang de 20 octobre, tout en poignantant de doigts, amont à peine couvert, la responsabilité est de Déby junior et de l'armée tchadienne, eh bien cette armée voit émerger sous son nez et sa barbe ce que Déby père, eh bien avant lui feu Kadhafi, en ont payé le prix avec leur sang, à savoir une vraie coalition armée interafricaine. Au Mali, Goïta et son équipe ont puissamment mis à la porte la France, et à l'heure qu'il est, il en est à lui de demander des comptes pour ses 8 ans de crimes de guerre contre les Maliens, soit une perspective parfaitement faisable, et à même de faire un précédent si la Russie finit par se convaincre qu'il est grand temps qu'il agisse en vrai allié des États-nations du Sahel, et de dépasser le simple statut de marchand d'armes ou de fournisseur de conseillers militaires. En ceci, le Mali de Goïta tend à devenir le noyau d'une coalition armée ouest-africaine à qui a déjà rallié la Guinée du général Damimba, pays dont l'appui au Mali a fait un royal échec à la campagne de l'embargo occidental anti-malien. Cela fait donc déjà 2 armées ouest-africaines qui s'étaient mutuellement apprêtées les coudes, ont déjà commencé à changer les règles du jeu en Afrique de l'Ouest. Or, à ce noyau bien consistant vient de rejoindre le Faso du général Traoré, cet héritier de Sankara, qui a choisi comme sa première destination en qualité de président Bamako, où signer des accords de défense. L'objectif, empêcher que le franc US OTAN, qui a fait hélas du Niger son QG aérien et terrestre, puisse forcer les frontières Burkina-Mali au niveau de la région des 3 frontières et arracher davantage de terres au Burkina ou au Mali. Et Traoré a fait ceci sur fond d'une remise sur les rails de la force populaire que Kaboré avait construit mais Damiba avait dissous sous pression de Paris. Or, cette force populaire compte à présent quelque 50 000 effectifs. Eh bien, c'est dans un pareil climat qu'évolue l'armée tchadienne, dont est issue le trop soft Déby junior, une armée qui a prouvé à plus d'une reprise sa capacité de faire énormes sacrifices pour que les biens du Tchad et des Tchadiens soient préservés et assurés. L'armée tchadienne restera-t-elle longtemps indifférente à ce changement de la donne? C'est très exactement cette même question que semblent s'être posée les vrais scénaristes du massacre du 20 octobre qui continue à verser des armes de crocodile sur le sort des Tchadiens. Et ce, d'autant plus qu'à l'image de leurs confrères maliens, guinéens et burkinabés, les officiers tchadiens se sentent bien plus proches de l'Est de la Russie et de la Chine que des colonialistes occidentaux. Certes, Déby junior a fini par voter contre la Russie à l'AG de l'ONU dans le dossier du rattachement de 4 provinces ukrainiennes, mais ce son gouvernement a négocié pas plus tard qu'au mois d'avril, soit bien après le début de la guerre avec la Russie, pour mettre sur pied des accords de défense. À l'époque, l'Occident avait même paniqué de voir Déby junior d'envoyer le ministre délégué à la présidence de la République, chargé de la défense nationale, le général Daoud Yahya Ibrahim, à Moscou. Or, ce signe de confiance qu'envoie Déby fils en direction de Moscou n'est pas resté sans réponse, le président russe ayant nommé le 26 octobre un nouvel ambassadeur à N'Djamena, écartant l'ancien ambassadeur qui, dans la foulée des violences du 20 octobre, avait exhorté les Russes à ne pas se déplacer au Tchad. Autre signe d'un coup anti-Occident à venir, le FMI suspend son aide au Tchad. Or, on le sait, ces genres de punitions réservées aux trublions. Déby va-t-il emboîter le pas au Burkina Damiba pour céder place à un Traoré tchadien? Le Sénégal, un des premiers pays africains à avoir contribué au lancement du corridor anti-sanctions iranienne, avance de jour en jour dans son plan de détachement de l'Occident, et ce sur tous les plans, que ce soit militaire ou économique. En effet, après s'être adhéré en tant que 20e membre de l'OPEP du gaz en octobre dernier, on apprend par un communiqué du ministère du Pétrole et des Énergies que le Sénégal vient d'adhérer officiellement à l'Organisation des producteurs du pétrole africain lors de la 43e session du Conseil des ministres de l'Organisation des producteurs du pétrole. Le Conseil des ministres de l'APO a approuvé officiellement ce vendredi 4 novembre à Luanda, lors de sa 43e session, l'adhésion du Sénégal au sein de ladite organisation, ce à la suite de la correspondance adressée par le gouvernement en date du 18 octobre dernier. Cette adhésion s'est faite après près de 2 ans de participation et de suivi de notre pays comme observateur, précise la source. En effet, alors que depuis 2005, l'Africom remue ciel et terre afin de trouver une légitimité face au peuple et au gouvernement sénégalais, plus le temps passe, plus ces derniers montrent un rejet vis-à-vis de cette force colonialiste. Macky Sall a l'œil sur tous les aspects sur lesquels il faudrait s'attaquer afin de renforcer cette coalition interafricaine anticolonialiste et cette fois-ci, c'est sur le secteur économique qu'il a investi de plus. Le président de la République du Sénégal, Macky Sall, a pris des décisions fortes allant dans le sens de la réduction du coût de la vie jugé trop cher. Pour cela, il a agi sur les prix des denrées de consommation courante tels que le riz, le sucre, l'huile et le pain. Le président Macky Sall a aussi décidé de réguler le prix du loyer à Dakar avec une nouvelle grille tarifaire caractérisée par une baisse du coût du loyer. La flambée des prix des denrées de première nécessité au Sénégal avait fini d'exaspérer la plupart des chefs de ménage. Tous les produits de consommation courante ont augmenté de façon vertigineuse sans que l'État ne puisse agir. En effet, par son intelligence et vigilance, le président Sall a su neutraliser le complot occidental en Casamance qui consistait à faire un remake du scénario Cameroun ou Mali. Le gouvernement sénégal est en parfaite cohésion avec ses voisins mais aussi avec ses forces armées. Une armée qui n'a autant été équipée, modernisée et bichonnée que sous le président Sall. Cette fois-ci, c'est en prenant l'indépendance du secteur gazier et pétrolifère, ce secteur si important pour les pays occidentaux sur lesquels ils ont tenté de garder la main mise pendant toutes ces années sans succès bien sûr. Une chose est sûre, dans cette sous-région ouest-africaine, voire au niveau africain, tous les observateurs et experts militaires s'accordent à reconnaître que le Sénégal est, depuis l'accession au pouvoir du président Sall, une puissance militaire mais aussi économique qui a déjà montré ses preuves sur tous les théâtres d'opération. Décidément, le Burkina Faso est loin de fournir à l'ex-US autant ce qu'il souhaitait avoir après le dernier coup d'État au pays et la prise du pouvoir par Ibrahim Traoré. Les États-Unis vont exclure le Burkina Faso de l'accord commercial liant les États-Unis aux pays africains, a annoncé mercredi 2 octobre la Maison-Blanche, justifiant cette décision par l'absence de progrès vers un retour à la démocratie après les 2 coups d'État militaires dans le pays depuis début 2022. Comment peut-on analyser cette décision américaine?
Eh bien, donc, il y a eu un coup d'État panafricaniste en Guinée, en Burkina Faso, et le pouvoir de Traoré, c'est un pouvoir qui rejoint celui du colonel Goïta au Mali et qui rejoint l'axe Alger-Bamako-Moscou contre les Occidentaux. Les Américains, évidemment, et les Français sont furieux. Et donc, les Américains ont commencé à prendre des sanctions contre le Burkina Faso. L'exclusion du Burkina, de l'AGOA notamment, avec ses conséquences économiques, c'est la suite de ceci. Mais le nouveau pouvoir du Burkina Faso, il a le soutien de la population et il s'inscrit dans la lignée de Thomas Sankara, c'est-à-dire d'un pouvoir anti-occident. Il y a évidemment un axe anti-occident qui s'appuie notamment sur la Centrafrique et le Mali. Mais évidemment, les bases panafricaines dans tous ces pays, la Centrafrique, le Mali, le Burkina Faso, mais aussi le Cameroun, la Guinée équatoriale et même le Tchad où il y a des manifestations anti-françaises et anti-américaines, évidemment, est en train de se constituer. Les bases panafricaines sont en avance, évidemment, Elles précèdent les dirigeants panafricains. Évidemment, elles ont une maturité politique et anticolonialiste qui est remarquable. Les dirigeants, évidemment, africains qui continuent à se situer dans l'optique pro-occidentale sont en train de se couper de ces masses. C'est cela qu'il faut retenir. Et le monde nouveau, qui est un monde évidemment multipolaire, il s'appuie sur ces masses, il s'appuie sur les États panafricains, il s'appuie sur la Russie et sur l'Iran pour détacher l'Afrique du néocolonialisme, de l'exploitation que représentent la France et les États-Unis et tous les autres pays néocoloniaux.
Le Sénégal devient membre de l'Organisation des producteurs de pétrole africains. Le pays pourra bénéficier des supports et expériences des autres pays membres de l'organisation dans la perspective de l'exploitation de son pétrole, dont les premiers barils sont attendus pour 2023. Le Sénégal a intégré vendredi l'Organisation des productions de pétrole africains, APO, en tant que membre. À l'occasion de la 43e session du Conseil des ministres de cette organisation, qui s'est tenue dans la capitale angolaise, Luanda, a indiqué le ministère sénégalais du pétrole et des énergies. Le Sénégal devient le 18e membre de l'organisation africaine créée en janvier 1987 à Lagos, Nigeria. L'APO a pour mission de promouvoir la coopération entre les pays membres et autres institutions internationales dans le domaine des hydrocarbures et d'encourager une collaboration fructueuse ainsi que des partenaires. Le Conseil des ministres de l'Organisation des producteurs de pétrole africains a approuvé officiellement ce vendredi 4 novembre 2022 à Luanda lors de sa 43e session en présence de Madame Aissatou Sophie Gladima, ministre sénégalaise du pétrole et des énergies. L'adhésion du Sénégal au sein de la dite organisation indique un communiqué du ministère sénégalais du pétrole et des énergies publié à cet effet. La problématique de l'éducation n'est pas occultée du programme du gouvernement d'Union nationale au Tchad. Le gouvernement ambitionne de poursuivre la refondation du système éducatif aux prises avec les défis de l'accès, de l'équité, de la qualité, de l'efficience et de la gouvernance, a indiqué le 3 novembre le Premier ministre Salé Kebzabo. Durant les prochains 24 mois, le gouvernement veillera à améliorer significativement les indicateurs de performance du système éducatif en faisant accroître le taux d'achèvement du cycle primaire en le faisant passer de 44,47% à 60% et de 17,3% à 25% pour le cycle secondaire, a déclaré le chef du gouvernement. Afin d'atteindre ces objectifs ambitieux, des efforts seront entrepris pour, d'une part, assurer la présence effective du personnel enseignant dans l'ensemble des provinces du pays et opérationnaliser les structures des académies, d'autre part. Au Cameroun, le parti présidentiel fête ce dimanche 6 novembre les 40 ans du pouvoir de Paul Biya, 89 ans, censé continuer à diriger le Cameroun jusqu'en 2025. Les festivités marquant les 40 ans de l'accession au pouvoir de Paul Biya sont organisées par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, fondé par le président en 1985. Paul Biya est le président du Cameroun depuis le 6 novembre 1982. Il gravit rapidement les échelons dans le gouvernement d'Amadou Ahidjo dans les années 1960 exerçant les fonctions de chargé de mission à la présidence de 1962 à 1965, de directeur de cabinet et de secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et de la culture de 1965 à 1967, de directeur de cabinet civil de 1967 à 1968 et de ministre secrétaire général de la présidence de 1968 à 1975. China Exim Bank, qui représente l'un des principaux bras financiers de Pékin, a accordé à la Zambie plus de la moitié de l'ensemble des prêts servis par l'Empire du Milieu à ce pays d'Afrique australe. La Banque chinoise d'import-export dirigera l'équipe des créanciers chinois lors des négociations sur la restructuration de la dette de la Zambie, a rapporté Reuters ce jeudi 3 novembre, citant le ministère zambien des Finances. La Chine est le plus grand créancier bilatéral de la Zambie. Elle représente 75% des dettes de ce pays d'Afrique australe détenues par l'ensemble des créanciers bilatéraux officiels, dont la France et l'Inde. China Exim Bank est l'un des deux principaux bras financiers de Pékin, à côté de la China Development Bank, cette cheville ouvrière de l'initiative chinoise des nouvelles routes de la soie accordée à la Zambie, plus de la moitié de l'ensemble des prêts chinois.